Baba Godé. Baba, you be too much.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Vous écoutez VOA Afrique, il est 6h à Washington DC, 10h en temps universel. Rosine Mounezero dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonjour et bienvenue. L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et 10 anciens officiels militaires et gouvernementaux ont comparu mercredi pour la première fois devant un tribunal de Conakry où ils doivent répondre du massacre, des tortures et autres viols commis en masse le 28 septembre 2009 et juste après. Un procès réclamé depuis des années par les victimes. Le président de la Cour a choisi de ne pas leur demander s'ils plaidaient ou non coupables. Il a levé l'audience jusqu'au 4 octobre à la demande de la défense qui s'est plainte de n'avoir reçu le dossier que la veille. Le procès est supposé durer plusieurs mois. Au Tchad, une commission interne au dialogue de réconciliation nationale a proposé mercredi de prolonger de 2 ans la transition vers des élections à maintenir à la tête de l'État le chef de la junte militaire et l'autoriser ensuite à briguer la présidence dans les urnes. La commission interne a également proposé mercredi un mandat de 6 ans pour le futur président élu, renouvelable une seule fois sans possibilité de révision, même par référendum. Le procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide de Rwanda en 1994, s'ouvre ce jeudi devant un tribunal des Nations Unies à La Haye. L'ancien homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 87 ans, était en 1994 l'un des plus riches du Rwanda. Il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Arrêté en 2020 près de Paris après 25 ans de cavale, il est notamment accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe, bras armé du régime génocidaire Hutu. Il était aussi président en 1994 de la tristement célèbre radio-télévision Libre des Mille Collines qui a diffusé des appels au meurtre des Tutsis. Au Burkina Faso, le convoi de ravitaillement visé lundi lors d'une attaque qui a fait 11 morts et 50 disparus dans le nord du pays a été livré par des complicités malheureuses, a affirmé mercredi le ministre délégué à la Défense, Silas Keïta. Le ministre n'a pas précisé la nature de ces complicités, mais des sources locales et sécuritaires évoquent des informateurs civils au sein même du convoi. Le convoi escorté par l'armée qui devait ravitailler la ville de Djibo dans le nord du pays a effectué de nombreux arrêts sur le chemin à la demande de certains passagers et c'est lors d'un de ces arrêts qu'il a été attaqué.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président ougandais Yoweri Museveni a exclu mercredi d'imposer un confinement pour lutter contre le virus Ebola dont des cas ont été détectés en Ouganda, affirmant que le pays avait la capacité de contenir l'épidémie. « Nous avons décidé de ne pas confiner, ce n'est pas nécessaire », a-t-il déclaré. Les autorités ougandaises ont déclaré que des cas de cette maladie très contagieuse avaient été repérés dans la région centrale de Mubende la semaine dernière. Il y a eu 24 cas et 5 décès confirmés, a déclaré le président Museveni lors d'un point de presse télévisé. Les femmes victimes de viols atroces soignées dans l'hôpital du prix Nobel de la paix Denis Mukwege dans l'est de la République démocratique du Congo peuvent désormais bénéficier d'une chirurgie sans cicatrice dans un nouveau service ultra-moderne inauguré mercredi. La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée jeudi en Corée du Sud pour visiter la frontière lourdement fortifiée avec le Nord lors d'un voyage visant à renforcer l'alliance de sécurité avec Séoul. S'exprimant à bord d'un navire de guerre américain dans une base navale avant son départ du Japon, la vice-présidente américaine a accusé le régime de Kim Jong-un de menacer la stabilité régionale par de nouveaux tirs de missiles, dénonçant leur programme d'armement illicite. Elle s'était rendue au Japon pour assister aux funérailles nationales de l'ancien premier ministre assassiné Shinzo Abe, où elle a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai dernier.